parole du jour avec le Père Willem.
Face aux aléas et aux crises de la filiation, quelques mots. Par rapport à ce projet très normatif dont nous parlions hier, les réalités humaines se rebellent parfois, d'où des crises de filiation, mais aussi des procédures pour les surmonter. Elles se nouent autour de deux séries d'aléas, biologiques et sociaux. Les aléas biologiques sont nombreux et couramment exprimés dans l'attente des naissances. La femme concevra-t-elle? Deviendra-t-elle mère? Donnera-t-elle une descendance à son homme et à sa famille? Et l'enfant, que sera-t-il, garçon ou fille? Bien formé ou difforme? Ainsi aura-t-il vie longue ou brève? À qui va-t-il ressembler? Son père, sa mère? Avec quelle qualité, quel avenir? À propos de la conception, tout restait dans le mystère. Ce qui explique l'appel au sacré, au moment des dieux, le monde des dieux, le sacré. Cela pour faire face aux aléas, alors s'organisaient des pratiques très souvent à consonance religieuse, des rites, des pèlerinages, des filtres pour faire advenir l'enfant, et si possible, sous une bonne étoile, car c'est le ciel qui commandait ces aléas. Certaines cultures connaissent aussi des maternités de substitution. On a souvent cité à ce propos la tentative du vieil Abraham avec la stérile Sarah au chapitre 16 de la Genèse. La question trouvait une première réponse au moment de la naissance, de la mise au monde et du premier vis-à-vis. Si le nouveau-né apparaissait impossible à adopter selon la coutume et donc inapte à être déclaré fils de, ce sont des procédures d'abandon, de relégation, d'exclusion et parfois d'infanticide qui étaient de mise. Il pouvait arriver que sa différence soit considérée comme un cadeau des dieux et porteuse de bénédictions sociales ou parfois encore utilement exploitée par des montreurs de foire. Les aléas sociaux trouvaient de même des issues par le placement de l'enfant hors filiation. Par exemple, dans la déclaration de bâtardise, plus ou moins convenue et organisée dans le système des hiérarchies sociales et des héritages. De ces procédures, d'autant que n'apparaissait pas au premier plan ce que pouvait vivre et ressentir l'enfant non bien né et à qui n'était pas accordé le statut de fils. On peut penser qu'au long des siècles, le christianisme a modifié ce désintérêt à partir d'une pitié et d'un sens évangélique de l'accueil. Mais ce ne fut pas sans mal. Il n'y a pas beaucoup parmi vous d'enfants bien nés, écrivait pourtant déjà l'apôtre Paul à la communauté chrétienne de Corinthe, au premier chapitre de la première Corinthiens 1, 26. Oui, une autre filiation apparaît ainsi. Tel est le fond commun sur lequel nous pouvons examiner les changements de notre époque. Pendant deux siècles, l'évolution sociale et culturelle a fait émerger en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, Nouvelle-Zélande, une forme familiale dominante dont les caractéristiques ont été mises en évidence par les historiens depuis Philippe Ariès. une famille plus restreinte, centrée sur le couple parental, vivant le vœu de faire une place à la passion dite l'amour, tant conjugal que parental, pour assurer le bonheur de ses membres. Et cette forme attractive se propose encore avec séduction aux populations d'immigration. Elle a pour corréla le petit nombre d'enfants par foyer, ce que les démographes nomment, dans un regard d'ensemble, la transition démographique. Dans ce contexte, la valeur attachée à la progéniture a pris aussi une forme nouvelle. Cette valeur ne sera plus le nombre, nécessaire autrefois à la survie et à la valorisation du groupe, ni l'héritage familial, mais plutôt la qualité individuelle. Le couple parental se voit investi d'une responsabilité pour réussir, oui je dis bien, pour réussir ses enfants par l'éducation et la promotion sociale. Et ainsi se développe une équation enfant réussi égale enfant éduqué. Enfant éduqué égale enfant choyé. Enfant choyé égale enfant désiré. Équation qui se lit d'ailleurs dans les deux sens, sont bien connues, car bien reçues de nos jours, des slogans tels que « Un enfant, quand nous voulons, si nous voulons, comme nous voulons, alors nous vivons en l'ère du volontarisme conjugal qui va de pair avec l'image directrice de l'enfant roi. » Le grand espoir de parenté d'aujourd'hui est que l'enfant soit couronné, ce qui domine bien leur projet. Ce n'est plus l'accomplissement de l'enfant bien-né, situé à partir de son passé, de son héritage, mais plutôt la perspective ou de l'immédiat, les chances d'avenir. Reste à savoir ce qui retentira dans ce projet, dans le vécu de l'enfant roi. Ce projet n'est pas qu'un pieux désir et il n'a plus grand-chose à voir avec l'invocation du ciel, même si les horoscopes font toujours florès. En effet, la même société a découvert et mis en œuvre certains organes, disons, d'influence, de publicité, aussi des moyens efficaces, donc à travers cela, de réalisation grâce au progrès de la science médicale. À l'heure actuelle, l'offre médicale peut apparaître comme celle du bébé zéro défaut. Dans la perspective de l'enfant roi, cette offre de maîtrise est spécialement attractive, bien sûr. Certains prospectus de l'avenir ont aussitôt célébré la victoire de l'enfant du futur, perfectionné au maximum, soigneusement conforme et programmé, au capital génétique sélectionné dès les gamètes, conçu dans la rationalité d'un laboratoire et non plus dans la folie d'une étreinte amoureuse, monitoré dans un utérus artificiel libérateur pour sa mère, livré bonheur et clé en main à ses commanditaires. Mais tout cela, à quel prix? Voici le petit roi de laboratoire. Le petit roi de laboratoire, ces petites choses, car à y regarder d'un peu plus loin, les techniques relevant de la biologie considèrent...
Reprenez votre phrase.
Mais à quel prix? Voici le petit roi de laboratoire, c'est une petite chose, car y regarder d'un peu plus loin, les techniques relevant de la biologie considèrent les corps humains par leur versant objectif. On sait mieux aujourd'hui comment le corps-objet est inscrit dans le vivant animal, végétal et même chimique, que comment il porte un plus qui émerge de ce matériel biologique. Dans l'approche réifiante de la science expérimentale, les pères, mères et enfants sont considérés comme des opérateurs de reproduction. Ils sont fonction, fonctionnement, processus, produit, chose. Le père est le géniteur, le génome, ensemble de macromolécules, les gamètes, des cellules reproductrices, la fécondation, une réaction chimique, la mère, un incubateur, l'embryon, un amas de cellules, son développement, le déroulement programmé d'un processus épinétique, sa naissance, un changement de milieu. Begotten, not made. Engendré, non fabriqué. Tel était, voici une vingtaine d'années, l'avertissement d'un des premiers bioéthiciens catholiques, le père Richard Marc McCormick. Car la réelle paternité, oui, la réelle paternité, maternité humaine reste irréductible à cette fabrication. Mais qui dit encore ce qu'elle est? Et qui le dira aux enfants ?